Vous écoutez RTL. RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est La Curiosité, c'est le nouveau 14h-15h sur RTL. Très heureux de vous retrouver pour une heure de découverte dans la bonne humeur. Ça va Sidonie ?
Ça va très bien Thomas, bonjour les curieux. Au programme en ce vendredi 13, un jour de chance pour la plupart d'entre nous. Tiens, vous entendez ? L'occasion d'aller la vérifier à la loterie.
J'ai encore joué ce matin.
Et pourtant, vous découvrirez pourquoi c'était à l'origine un jour maudit. Autre grande surprise à venir, vous comprendrez pourquoi la chance n'existe pas.
Allez tout de suite dans la curiosité, un produit qui fait polémique, le Roundup.
La curiosité est un vilain défaut.
Le Premier ministre vient de trancher, ce produit soit interdit en France d'ici la fin du quinquennat.
Christophe Castaner est allé trop vite en annonçant l'interdiction du glyphosate, donc du Roundup, avant la fin du mandat présidentiel. Personne n'avait encore donné de date, c'était faux, car en fait c'est l'Europe qui doit décider.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour Marie-Monique Robin.
Bonjour,
bienvenue dans La Curiosité. Vous êtes journaliste, vous enquêtez depuis près de 10 ans sur la multinationale Monsanto et sur son produit phare, le Roundup. On vient d'entendre dans la mise en onde de notre réalisateur André Facetta un dernier rebondissement avec un petit couac, on va dire, gouvernemental. On en est où là ? On attend une décision de Bruxelles, c'est ça ?
Oui, ça fait 2 ans hein, qu'on attend cette décision. Donc c'est vraiment un feuilleton, un rebondissement. Eh bien, on attend que les États membres de l'Union européenne se réunissent et décident s'ils sont d'accord avec la proposition de la Commission européenne qui est de prolonger l'autorisation du Roundup ou du glyphosate. Vous savez, c'est la matière active, on dit, dans cet herbicide, parce qu'en fait, le Roundup, c'est la marque de Monsanto.
Oui, voilà. Mais il y a d'autres produits à base de glyphosate.
Voilà, il y a des génériques, comme on dit, vous savez, que c'est pareil que les médicaments. Voilà. Et donc, la Commission européenne voudrait le prolonger de 10 ans. Mais pour ça, il faut que les États décident s'ils sont d'accord ou pas. Mm-hmm. Et ça n'arrête pas. Enfin, la France, en tout cas, avait annoncé par la voix de Nicolas Hulot que, non. Et, en fait, Nicolas Hulot voulait répéter la position de Ségolène Royal, juste... dans le tour d'avant, qui était non, on votera contre. Et là, vous avez dit, là, on vient de l'entendre, reculade. Et aujourd'hui, on en est que le gouvernement français a dit qu'il allait s'opposer à une réhomologation de 10 ans. Donc ça veut dire peut-être 2, peut-être 4, peut-être 7, on ne sait pas en fait.
Grand flou.
On verra bien et on va essayer de comprendre pourquoi ce produit est potentiellement dangereux d'après vous.
Autre dernier rebondissement judiciaire dans ce feuilleton, c'est une plainte déposée par une mère de famille contre Monsanto. Oui. Qu'est-ce qu'elle lui reproche ?
Donc elle est dans le documentaire et le livre que je viens de réaliser. C'est Sabine Grataloup qui est une maman. La famille pratique l'équitation et ils ont une très jolie carrière d'équitation. Quelque part... du côté de Vienne, Et elle avait l'habitude, dans les airs, elle avait l'habitude de passer un herbicide à base de glyphosate pour désherber sa carrière au début d'été, pour que ce soit nickel,
Avec quelles conséquences sur sa famille ?
En fait, elle ne savait pas qu'elle était enceinte, donc en 2006. Et 9 mois plus tard, naît un petit garçon qui s'appelle Théo, qui est un merveilleux petit garçon, mais qui est né avec une très, très grave malformation congénitale. Sur le coup, elle ne comprend pas. Le chirurgien qu'elle rencontre à Lyon lui a dit que, vu la chronologie, parce que c'est en début de grossesse et qu'elle a passé donc un herbicide à base de glyphosate, il est fort possible qu'il y ait un lien. Mais elle est un peu dans le flou parce que vous savez, c'est difficile quand vous arrivez un truc pareil. Théo est quand même resté 6 mois à l'hôpital. Et maintenant, il a une trachéotomie. Donc, vous voyez, il parle avec...
C'est une malformation de la trachée, en fait.
Voilà, il a malformation. Alors, il a ce qu'on appelle une atrésie de l'œsophage qui fait que son œsophage n'est pas connecté à l'estomac, mais au poumon. Donc, il faut absolument opérer parce que vous mourrez, évidemment. Mmh. C'est mortel. Donc, on opère. Mais en plus, il avait une autre malformation du larynx qui fait qu'il a dû apprendre à parler. Vous savez, comme ceux qui ont eu des cancers de la gorge.
Mais les médecins ont fait le lien entre l'utilisation de ce glyphosate dans l'entourage et dans le quotidien de Sabine Grataloup et la malformation de son fils.
Alors, le chirurgien Rémi Dubois de l'hôpital de Lyon lui a dit à l'époque, parce qu'elle s'est évidemment interrogée, pourquoi ils avaient eu une petite fille avant, 2 ans plus tôt, qui n'avait rien. Et il lui a dit, il est possible, parce que des études tendent vers ça, que ça soit lié au glyphosate. Alors, c'est exemplaire cette histoire de cette famille, parce qu'ils ont vraiment tout fait pour alerter l'opinion publique. Ils ont écrit à Sarkozy à l'époque, au président, ils ont écrit à leurs députés, et puis ils ont fait des communiqués de presse. Mais personne ne s'est saisi de cette histoire, parce que c'est compliqué. Alors on a un petit peu peur, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment un lien ou pas un lien. Alors moi, j'ai passé 2 mois, parce qu'avant de décider de la filmer, 2 mois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire consulter toutes les études disponibles. Est-ce que oui ou non, on peut établir un lien entre la malformation congénitale, les 2 malformations congénitales de Théo, et l'exposition de sa maman pendant 2 jours à une forte dose, en l'occurrence, parce qu'elle a passé pendant 2 jours de l'herbicide à base de glyphosate, en début de grossesse. Et la réponse est oui. Non seulement les études scientifiques indépendantes le prouvent, mais moi, j'ai eu accès au dossier d'homologation. Alors, homologation, ça veut dire que quand vous êtes fabricant, vous devez obtenir une autorisation de mise sur le marché. Donc, vous fournissez des études aux agences de réglementation. Et moi, j'ai eu accès au dossier de Monsanto. Eux-mêmes savent, il y a une étude de 1980, par exemple, qui montre que ce produit provoque des malformations congénitales si on est exposé en début de grossesse, mais ils ont caché l'étude.
Alors, c'est ce que vous racontez dans ce livre, le Roundup face à ses juges, publié aux éditions La Découverte et Arte Éditions, puisqu'il y a également un doc qui sera diffusé mardi prochain sur Arte. Bon, c'est une procédure judiciaire en cours, on va voir comment elle aboutit. En tout cas, ce qu'on veut savoir, c'est comment Monsanto en est arrivé à devenir un géant comme ça de la chimie et d'utiliser ce produit. Pourquoi le glyphosate est-il, selon vous, dangereux? C'est ce qu'on va dire dans un instant sur RTL.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter, Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France.
RTL, première radio de France. 14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Glyphosate, c'est un nom que vous avez beaucoup entendu ces derniers jours dans l'actualité. Derrière cette molécule, il y a un produit, le Roundup, et une multinationale, Monsanto. Quelles sont ses méthodes? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec notre invitée, Marie-Monique Robin. Monsanto, c'est une société américaine, mais elle a été rachetée il y a un an. Par qui?
Alors, elle n'est pas encore rachetée.
C'est en cours, alors.
Voilà, c'est en cours. Bayer, c'est un autre producteur de produits chimiques allemand. C'est par exemple les insecticides qui tuent les abeilles, on en a beaucoup parlé, a proposé de racheter Monsanto, multinationale américaine, pour une petite somme de 59 milliards d'euros. C'est pas mal quand même. Mais il faut que la Commission européenne se prononce parce qu'il faut qu'il vérifie que ce mariage des affreux, comme ça a été écrit, ne va pas enfreindre ce qu'on appelle la loi de la concurrence. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un monopole.
Donc, ça créerait un groupe gigantesque.
Le plus gros groupe agro-industriel qui contrôlerait toutes les semences, depuis les semences jusqu'à l'assiette du consommateur. Et avec en prime, Bayer, c'est aussi un producteur de médicaments. Et c'est assez extraordinaire parce qu'il pourrait à la fois rendre malades des paysans avec des produits agricoles dangereux qui sont les pesticides et les soigner. Ça serait un énorme groupe. Alors, est-ce que la Commission européenne va donner son feu vert? On attend la réponse début 2018.
Alors évidemment, ces groupes se défendent d'empoisonner les consommateurs. Mais Marie-Monique Robin, si on fait un peu d'histoire, Monsanto, c'est quoi? Elle existe depuis quand, cette firme?
Alors, 1901, créée dans le sud des États-Unis. C'est devenu assez rapidement l'un des premiers producteurs de pesticides, par exemple DTT, dont on a beaucoup parlé, DDT, qui est maintenant interdit, mais aussi des herbicides très utilisés. À un moment, on en a parlé dans l'histoire parce qu'ils ont été associés, il y en a deux qui ont été associés, ça fait ce qu'on appelait l'agent orange pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine, qui, pour lutter contre la guérilla communiste, balançait, passez-moi l'expression, de l'agent orange pour détruire les forêts, les récoltes, etc. Alors ça, c'est un énorme scandale. Il y a aujourd'hui encore des enfants qui naissent avec de très graves malformations congénitales parce que ce mélange de ces deux herbicides était pollué par de la dioxine. Donc ils ont fait aussi, Monsanto, un autre produit qu'on a bien connu en France qui s'appelle des PCB. Et en fait, ça s'appelait pyralène en France. Vous savez, dans tous les transformateurs électriques, il y avait une huile chimique qui isolait, qui permettait d'isoler les transformateurs électriques. Et le pyralène a été vendu partout dans le monde. Et c'est un produit également interdit aujourd'hui, mais qui est très, très, très polluant. Vous en avez dans le corps, et moi aussi j'en ai, et les ours blancs en ont. Voilà.
Le glyphosate, c'est quoi exactement? Puisque c'est le thème de notre sujet, c'est vraiment dans l'actualité. Ça fonctionne comment? Pourquoi c'est si dangereux?
On dit que c'est un herbicide total parce que ça veut dire que ça tue toute forme de végétation. Voilà, sans aucun détail. Mis sur le marché la première fois par Monsanto en 1974. Mais ce n'est pas Monsanto qui a inventé cette molécule.
Qui découvre cette molécule?
C'est un chimiste suisse dans les années 50. Il travaille pour un laboratoire pharmaceutique. Il ne trouve pas d'application pharmaceutique. Donc, il vend de la molécule à une autre multinationale américaine qui découvre, c'est ce qu'on appelle un chélateur de métaux.
Alors, ça fait peur.
En tout cas, ça veut dire que quand vous balancez du glyphosate dans une installation industrielle, eh bien, elle va capter tous les métaux qui sont là, qui polluent, et donc on va l'utiliser comme détergent dans les canalisations et les chaudières industrielles. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est un détergent extrêmement puissant. Ça veut dire aussi que quand vous en avez dans votre organisme, ou il y en a dans le sol, il séquestre les minéraux et il les rend solubles ensuite dans l'eau. Et ça va faire toute une série de conséquences à la fois sur les animaux, sur les plantes et sur les humains. C'est ce que je décris dans mon livre.
Alors Marie-Marie ce livre, Grosin. C'est Le Roundup face à ses juges, publié aux éditions La Découverte.
Alors moi, je me posais la question, est-ce que j'ai du glyphosate dans mon corps, même si j'en ai pas répandu dans mon jardin?
Je suis désolée de vous dire que oui. Moi, j'ai participé à une étude qui a eu lieu au printemps, c'est Génération Future, une association qui l'a faite. Et j'ai accepté, comme Émilie Loiseau, la chanteuse, comme Delphine Bateau, l'ancienne ministre de l'Environnement, de faire pipi dans un flacon.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre
pipi? Il y avait François-Olivier Gisbert aussi qui avait participé, je crois, si je me souviens. Ou c'était pour une autre émission peut-être.
Voilà. Mais on était une trentaine. Ouais. Et nous avions tous du glyphosate dans nos urines.
Un taux
même 12 fois supérieur à ce qui est autorisé dans l'eau.
Mais comment ça s'excite, ça s'explique, ça rentre dans des produits de consommation courante, c'est ça?
La Commission européenne a établi une liste de 358 aliments qui sont susceptibles de contenir du glyphosate.
Mais lesquels on veut savoir?
Tous les légumes en contiennent, tous les fruits, les céréales.
S'ils ne sont pas bio.
Voilà, oui. Parce que la bonne nouvelle quand même. Moi, par exemple, je suis très fière, j'étais dans la fourchette basse. Dès que j'en avais moins, beaucoup moins que les autres. Pourquoi? Parce que je mange bio à la maison. Il y a une étude allemande qui a été faite sur 2000 citoyens. C'est beaucoup plus important que 30. Et même constat, si vous mangez bio, vous avez 4 fois moins de résidus de glyphosate dans vos urines. Et vous en avez beaucoup, beaucoup si vous mangez beaucoup de viande. Parce que tous les élevages industriels, que ce soit le porc, la vache, les poulets, sont nourris avec du soja transgénique. Et pourquoi il est transgénique? Parce qu'il a été manipulé génétiquement pour pouvoir être arrosé d'un herbicide à base de glyphosate.
Produit par Monsanto, qui a l'habitude des procès et d'une opinion publique hostile. Mais comment a-t-elle fait pour éviter l'interdiction du glyphosate? On vous décrit ce lobbying où tous les coups sont permis, juste après la pause. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. Voici Monsanto, la reine des graines OGM. À lui seul, le groupe produit près de 90% des semences transgéniques mondiales.
La curiosité est un vilain défaut.
Il est aussi un acteur important des herbicides grâce à son produit phare, le Roundup. C'était déjà elle qui fournissait l'armée américaine en agent orange, un autre herbicide. Joli contrat.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Avec la journaliste Marie-Monique Robin, l'une des meilleures spécialistes du dossier glyphosate, vous enquêtez sur Monsanto depuis 2008 et je rappelle que vous sortez un livre et un documentaire sur Arte la semaine prochaine. Alors, vous n'êtes pas la seule à enquêter sur Monsanto, évidemment. Parmi les dernières révélations, il y a cette enquête du Monde qui démontra il y a quelques jours comment Monsanto influence l'opinion publique grâce à des articles signés par des experts. Alors, qui écrit ces articles d'après Le Monde?
Alors, il faut ajouter expert bidon.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, ouais, hein, non, mais c'est vraiment ça qu'il s'agit.
C'est comme ça qu'on les appelle?
Décrivez le processus.
Monsanto veut absolument que son produit ne soit pas cancérigène, alors qu'il y a une organisation qui est très célèbre, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, qui a dit si c'est cancérigène pour les humains, probable pour les humains. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont aller payer un scientifique, qui évidemment ne dit pas qu'il travaille pour Monsanto, et qui va faire une étude, mais qui est biaisée, comme on dit dans le jargon, et qui va donc, et parfois même c'est Monsanto qui file, excusez-moi, qui
le, donne le contenu des articles, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que les articles sont quasiment écrits d'après Le Monde, hein, par des employés Monsanto et signés par des pseudo-experts, voilà, c'est ça.
C'est ce que je décris dans mon livre aussi, parce que ces techniques, je l'avais déjà décrite dans Le Monde sur Monsanto, donc c'est récurrent. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que c'est toujours les mêmes techniques et qu'il ne se passe rien, quoi. On sait très bien qu'ils font ça.
Mais qui signe ces articles? Des professeurs d'université, parfois.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Qu'est-ce qu'ils gagnent?
De l'argent. Ils sont payés.
Ils sont payés nombreux, ces scientifiques véreux.
Alors moi, j'ai essayé de faire dans mon livre la trace de tous ceux qui sont payés pour ça. J'ai interviewé une lobbyiste de l'industrie chimique qui m'a dit qu'en fait, son rôle, c'était dans chaque État américain, par exemple, de trouver un scientifique d'une université, payé en douce, évidemment, c'est pas public, hein, pour, dès qu'il y avait un problème sur un produit, dire, allez, hop, on vous donne les données, vous signez, vous voulez bien signer de votre nom, oui, et ça passe, et c'est publié dans des revues scientifiques. Ça, c'est une technique, mais il y en a d'autres. Hein. Ça peut être d'envoyer dans un journal de renommée internationale scientifique quelqu'un qui est un ex de Monsanto qui va contrôler la publication. Ou alors, dans les agences de réglementation, vous envoyez aussi des experts qui travaillent, de manière évidemment pas publique, pour Monsanto.
L'objectif de Monsanto, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais il faut peut-être y revenir, c'est de prolonger le plus possible l'utilisation de ce produit, le glyphosate et son Roundup.
C'est l'herbicide le plus utilisé au monde. C'est 800 000 tonnes déversées dans le monde. C'est absolument inouï.
Chaque année.
9 000 tonnes en France, principalement par les agriculteurs et par les maraîchers. Vous savez que depuis le début de l'année 2017, les villes, etc., n'ont plus le droit de désherber les cours de récréation. Tant mieux, on est bien content, avec des produits chimiques et notamment avec le...
Mais autour, si.
Voilà, mais autour, si.
Mais pourquoi les agriculteurs, pour certains d'entre eux, demandent à continuer d'utiliser? Parce qu'ils n'ont pas d'alternative.
On a du mal à comprendre quand même,
parce qu'ils ne sont pas là pour nous employer nos données. Les agriculteurs, ils veulent bien faire leur métier, évidemment.
Moi, je suis fille de paysan moi-même, donc je ne leur jette pas la pierre. Alors, je dis, un, qu'ils sont désinformés et mal informés, mmh. avec des mensonges permanents. Deux, qu'un certain nombre d'entre eux font vraiment des efforts pour réduire l'utilisation de produits chimiques toxiques. Mais ils ont peur. Pourquoi ils ont peur ? Parce que tout leur modèle est fondé sur ce produit. Si on leur dit on l'interdit, c'est normal qu'ils aient peur. Donc moi je dis, je l'ai dit publiquement et de manière privée, enfin des membres du gouvernement, et je vais le redire quand je vais être à l'Assemblée nationale, il faut une loi qui accompagne les agriculteurs qui sont prêts à changer de système. Il y en a plein, vous savez que c'est la profession où on se suicide le plus dans notre pays, avec les policiers. Il y a un malaise énorme chez les agriculteurs, ils n'en peuvent plus. Mais en même temps, si on ne leur propose pas des alternatives, mais quand on veut dire proposer, c'est à la fois des aides à la conversion, n'est-ce pas ?
Pour passer au bio, par exemple ?
Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de remplacer un produit toxique par un autre produit toxique, vous voyez. C'est ce qui se passe depuis 40 ans dans notre pays et partout dans le monde.
Mais c'est un bouleversement qu'il faut accompagner, en tout cas.
Voilà, et aussi de la recherche qui soit adaptée. J'entends très bien ce que disent ces agriculteurs, et il y a des gens qui font vraiment des efforts pour réduire... Voilà, l'utilisation de polychèques, il faut les aider. Il faut de vraies mesures d'accompagnement.
Pour revenir à Monsanto, la société a été condamnée par un tribunal français. C'était en janvier 2007 à Lyon. Qui avait porté plainte et pour quelle raison ?
Alors, c'était l'Association des eaux et rivières de Bretagne, parce qu'en fait, c'est le principal polluant des eaux de surface, toutes les rivières françaises, donc le glyphosate toujours, et notamment en Bretagne. Et Monsanto, pendant très longtemps, jusqu'à cette condamnation, avait fait une publicité qui est très connue. On voyait un petit chien qui mangeait un os imbibé de glyphosate, qui passait sur toutes les chaînes de télé, et qui disait que c'était un produit biodégradable et bon pour l'environnement. C'est un mensonge. Monsanto a été condamné à Lyon, comme vous venez de le dire, et à New York pour publicité mensongère. Ce n'est pas biodégradable. D'ailleurs, moi j'ai découvert que non seulement ce n'est pas biodégradable, mais que ça s'accumule dans les sols et dans les organismes vivants. Donc voilà pourquoi Monsanto a été condamné. Ils n'ont plus le droit de mettre que c'est biodégradable et bon pour l'environnement sur leur bidon.
Monsanto qui provisionne chaque année des sommes colossales pour anticiper, on ne sait jamais, des procès éventuels. C'est ce que l'on va découvrir dans un instant sur RTL. Et puis vendredi 13 oblige, on se demandera si la chance existe, si elle répond à des règles précises.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Toujours avec vous. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Le Roundup face à ses juges, c'est le titre d'un documentaire diffusé mardi prochain sur Arte, film réalisé par notre invitée Marie-Monique Robin. Alors ce géant de l'industrie chimique est régulièrement attaqué en justice, on en a parlé il y a quelques instants avec ce procès à Lyon en 2007. Est-ce qu'il perd systématiquement ses procès ?
Oui, en général il perd ses procès, mais le problème c'est qu'il y a très peu de procès, parce que c'est... Vous imaginez... S'attaquer à Monsanto, il peut mettre 3 millions de dollars sur la table et puis vous, ça va durer 7 ans, 8 ans. Et on a beaucoup parlé d'un céréalier français, Paul François, peut-être vous connaissez cette histoire, qui est allé jusqu'en... Maintenant, c'est en cassation. Ça prend beaucoup de temps. Donc,
c'est-à-dire qu'on n'ose presque pas s'attaquer à eux ?
Ouais, c'est très difficile. Voilà. Mais quand il y a des procès, en général, ils perdent. Mais en fait, leur technique, c'est de vraiment de faire peur aux gens. Se dire, moi je suis journaliste par exemple, j'ai des consoeurs aux États-Unis qui ont fait une petite partie du travail que j'ai fait, c'est-à-dire pas tous les produits de Monsanto, et qui ont eu du vent de leur maison pour se défendre. C'est vraiment très très difficile. Mais en ce moment, il y a plein de procès qui sont en train de se monter partout. Actuellement aux États-Unis par exemple, 3500 agriculteurs américains ont porté plainte contre Monsanto parce qu'ils sont atteints d'une forme de leucémie très rare et ils ont utilisé du glyphosate très souvent dans leurs champs, notamment d'OGM.
Ça veut dire que ce géant de l'industrie chimique provisionne de l'argent au cas où ?
Il provisionne beaucoup d'argent, et je pense même que c'est l'une des raisons pour laquelle il a accepté d'être acheté par Bayer, c'est pour organiser sa disparition, sachant qu'il y avait tous ces procès qui se profilaient. J'ai moi-même interpellé la Commission européenne là-dessus avec Corinne Lepage, l'ex-ministre de l'Environnement, en disant, si vous accordez cette fusion, quid ? Qu'est-ce qui se passe avec la responsabilité de Monsanto qui va disparaître ? Et on a des précédents qui montrent que c'est une manière d'échapper à la justice.
Merci beaucoup Marie-Monique Robin. Votre documentaire, c'est donc mardi sur Arte. Et puis le livre, Le Roundup face à ses juges, publié aux éditions La Découverte. Merci.
Vous écoutez RTL.